Nous sommes ici au cul de la place du Panthéon, au kilomètre 252 de notre périple en remontant la Seine, devant l'église de Saint-Étienne-du-Mont. Et sur la droite, il y a un hôtel qui est devenu en quelque sorte un hôtel littéraire qui s'appelle l'Hôtel des Grands Hommes, qu'on voit au début de Nadja, qui est photographié au début de Nadja d'André Breton, et qui est là où André Breton, après la Première Guerre mondiale, a accueilli Benjamin Perret, qui venait, si je me souviens bien, de Nantes, je crois, et avec lequel il a inventé, ici même, derrière nous, donc, l'écriture automatique, qui a connu une grande fortune en tant que technique littéraire, et a été un des points de départ du mouvement surréaliste dans ce qu'il avait d'original dans la littérature, Clair de Terre, Le Revolver à cheveux blancs. Devant nous, il y a cette église Saint-Étienne-du-Mont, commencée sous François Ier, terminée un siècle plus tard, et qui est une des églises les plus belles de Paris, les plus composites, les plus étranges, qui appelle le plus au rêve, une église également très littéraire, comme on va le découvrir en rentrant à l'intérieur. Et c'est aussi une église qui a laissé son nom dans l'histoire du crime, puisque c'est ici qu'un prêtre maboule du nom de Verger a assassiné l'archevêque de Paris, Monseigneur Cibourg, sous le Second Empire, à coups de couteau, en criant « Abat la déesse » pour protester contre le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Et maintenant, je vous invite à détacher votre regard des taches invisibles, si je puis dire, du sang de l'archevêque et à rentrer dans l'église pour y découvrir les trésors qu'elle va nous faire partager. Alors nous voilà à l'intérieur de l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui est une église très spectaculaire, notamment à cause de son jubé, qui est une sorte de monstrueux escalier de Chambord qui se trouve barrer l'espace qui sépare la nef de l'hôtel. Alors nous allons contourner le jubé pour aller au fond de l'église où se trouvent deux piliers qui déclenchent toujours chez moi une émotion profonde. Les restes de Jean Racine sont inhumés au pied d'un pilier et les restes de Pascal au pied d'un autre pilier. Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Leur sépulture originelle était à Port-Royal des Champs, et quand le roi a ordonné l'ouverture et la dispersion des ossements des jansénistes, un certain nombre de personnes qui avaient été liées au jansénisme, Madame Issali en particulier, ont ramené dans cette église les cendres d'un certain nombre de jansénistes célèbres. Parmi ces jansénistes, bien entendu, il y a Blaise Pascal, il y a Jean Racine. Voilà, nous sommes donc ici, entre les deux piliers, où l'on peut lire sur le pilier de gauche, les restes de Jean Racine, mort le 21 avril 1699, ont été rapportés de Port-Royal des Champs au moment de l'ouverture du cimetière de Port-Royal. Et à droite, le corps de Blaise Pascal, mort le 19 août 1662 sur cette paroisse de Saint-Étienne-du-Mont, a été inhumé près de ce pilier avec les trois petites lettres RIP qui signifie « Repose en paix, requiescat in pace ». Pascal, disait Amiel, est l'un des écrivains préférés des Français, celui qu'il cite tout le temps à cause des pensées ou à cause des provinciales. Et c'est peut-être un écrivain qui est aussi l'un des écrivains les plus méconnus des Français. Pascal est un personnage extraordinaire, qui est tout entier un être de paradoxe. D'abord, c'est un être de paradoxe parce qu'il était gay. C'est François Mauriac qui fait remarquer que Molière, qui écrivait des comédies, qui voulait instruire de monde au spectacle des vices des puissants, que Molière en réalité pleurait dans la coulisse avant d'y mourir, alors que tous les contemporains ont relevé l'étonnante gaieté de Pascal, un homme qui pourtant avait écrit sur la misère de l'homme sans Dieu, un homme qui en tenait pour la prédestination presque absolue, un homme qui avait une conception extrêmement sévère de la nature et de la grâce, et qui pourtant était d'une gaieté quasi permanente. Le deuxième élément paradoxal de Pascal, et qui est également fascinant, c'est cette volonté de convaincre malgré tout qu'il existe un au-delà du monde, que l'au-delà du monde ne peut être cherché que dans une relation amoureuse avec le Créateur. Et c'est d'autant plus paradoxal que cet homme qui croyait à la prédestination absolue a passé son temps à écrire une apologie, qui a donné les pensées, puisqu'il n'en reste que des fragments, qui était destinée précisément à convertir des gens dont ils pouvaient penser qu'ils avaient été ou non damnés depuis l'origine. Ce qui est une pensée absolument fascinante. La troisième chose de Pascal, c'est son côté profondément subversif en politique. Pascal, vous savez qu'il a distingué les grandeurs d'établissement des grandeurs naturelles, en recommandant de respecter les grandeurs d'établissement parce que l'ordre social et la paix sociale étaient à ce prime, et à ne jamais les confondre avec les grandeurs naturelles. Notre temps fait exactement l'inverse. Notre temps déteste les grandeurs d'établissement, voudrait détruire les institutions, mais en même temps ne cesse de vouloir que les postes institutionnels soient occupés par les gens les plus éminents, ceux des grandeurs naturelles. C'est une illusion que Pascal n'avait absolument aucunement. Pascal est tout entier projeté dans un autre monde, dans l'idée d'écarter le voile des apparences, de prendre les institutions pour ce qu'elles sont. Et c'est en cela que Pascal est un esprit profondément subversif. Pascal est mort ici, on le voit sur ce pilier. Il est mort à Saint-Étienne-du-Mont dans des conditions d'ailleurs extrêmement touchantes. Il avait vu sur les marches une jeune fille très belle, paraît-il, et qui mendiait. Et il l'a accompagnée chez les prêtres de Saint-Sulpice, qui n'était pourtant pas, si je puis dire, de sa paroisse janséniste. Il l'a accompagnée chez les prêtres de Saint-Sulpice où ils se sont occupés d'elle. Il ne l'a jamais revue. Il écrivait lui-même d'ailleurs, je n'ai de quoi contenter personne, je ne puis être la fin de personne, avec cette phrase absolument bouleversante et magnifique, n'ayant en moi que la misère et l'erreur. Et puis ensuite, alors qu'il sortait de la messe à Saint-Étienne-du-Mont, il a vu deux jeunes mendiants en train de mendier. Il était sur ses fins, il allait mourir, il les a installés chez lui et il est allé mourir seul chez sa sœur. D'où vient, disait-il, que j'ai toujours eu un si grand amour des pauvres et que je n'ai jamais rien commencé de faire pour eux. Quand Pascal dit, en parlant de Montaigne, le saut projet que Montaigne a eu de se peindre, on croirait qu'il fait le procès de notre temps, un temps dans lequel, animé par un espèce de narcissisme coupable, nous cessons de vouloir, de ne vouloir la réalisation de nous dans une atmosphère de compétitivité et de soif du bonheur individuel. Pascal était passé absolument au-delà de ses illusions. Et c'est la raison pour laquelle il est l'un des esprits les plus libérateurs qui soit. Et maintenant, en sortant, nous allons sortir de Saint-Étienne-du-Mont. Et nous allons sortir de Saint-Étienne-du-Mont en prenant au choix le bus ou le métro. Et très peu de gens savent que, au fond, le créateur de la RATP, c'est Blaise Pascal. Et c'est par là que je voulais terminer. Blaise Pascal a inventé la régie autonome des transports parisiens avec un mécanisme qu'on appelait les carrosses à cinq sols. Pascal avait constaté que les gens qui circulaient dans Paris allaient toujours d'un endroit à un autre. C'est un mathématicien, il a fait des algorithmes et il a dessiné des lignes. Et sur ces lignes, de lourds carrosses aux armes de la ville de Paris circulaient avec des stations fixes. Et de 10 minutes en 10 minutes, les gens savaient qu'en s'arrêtant à tel endroit, ils pourraient monter dans ce qui allait devenir plus tard un bus et gagner leur lieu de travail. Il s'est associé avec le duc de Roannaise, il a créé les carrosses à cinq sols. Et certaines des lignes qu'il a dessinées à l'époque avec ses algorithmes sont encore aujourd'hui les lignes de certaines lignes de bus parisiens. L'expérience a duré quelques années, a été arrêtée par le Parlement de Paris parce que le Parlement de Paris ne trouvait pas convenable que dans un même carrosse soient mélangés des gens d'origine et de conditions différentes, les bourgeois avec les nobles, les militaires avec les ouvriers, les paysans avec les domestiques, et que tout ceci était absolument insupportable à l'ordre social. Mais je l'ai dit, l'ordre social n'était pas ce que Pascal visait d'abord, puisqu'il visait à la fois une plus grande commodité de la vie courante, et en même temps cette espèce de phénoménal appel d'air de la transcendance qu'il n'avait cessé de vouloir rendre sensible au cœur de ses contemporains.